Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Alexandre Dubé est avec nous. Alexandre, bonjour.
Salut Benoît.
Salut. Alors, il y a des nouvelles à surveiller, Alexandre. Il y a eu un vide. Il y a eu un vide sidéral, excuse-nous, là. C'est des choses qui arrivent. Alors, le nombre de cas de la COVID-19, Alex, là, ça prend des proportions inquiétantes.
Oui, c'est une forte hausse là aujourd'hui dans le bilan qui a été dévoilé à 11h. 586 nouveaux cas, 2 décès de plus. En termes de cas, là, je regardais la tendance depuis quelques jours, là, Benoît, puis on a doublé à peu près en l'espace de 4-5 jours. Tu sais, ça s'accélère. On n'avait pas du tout des chiffres comme ça au cours des dernières semaines. Pour ce qui est des hospitalisations, on en compte 10 de plus, une de moins pour les soins intensifs, 23 000 tests qui ont été effectués. Et je te dirais qu'on est sur une moyenne là de 45,3 cas par million d'habitants. On surveillait les trois régions qui ont basculé en zone orange hier, entre autres Montréal, Québec et Chaudière-Appalaches. Pour Montréal, 219 cas. Québec, 92 cas. Et Chaudière-Appalaches, on est à une cinquantaine de cas actuels.
Bon, alors là, il y a la santé publique de Montréal, Alex, qui a fait le point aussi, là, parce que là, tout le monde est inquiet.
Sur le coup de 11 heures, point de presse, entre autres, avec la docteure Mylène Drouin, où là... On est allé un peu, quelles sont les zones les plus problématiques actuellement à Montréal? On parle de Parc Extension, Mont-Royal-Outremont, Côte-Saint-Luc, toute la partie au centre-ville, Montréal-Nord, mais également là dans l'Est, là Verdun-Saint-Michel, Saint-Léonard. Ce sont les quartiers, les arrondissements de Montréal qui sont les plus problématiques en ce moment. Et Dr Drouin a été très, très clair là, cet avant-midi en disant que là, les indicateurs étaient à la hausse depuis quelques jours déjà. La courbe s'accélérait. C'est vraiment, encore une fois, et c'est une tendance qu'on a observée depuis la fin de l'été, là, les 18-34 ans, qui représentent 50% des cas à Montréal. Et il y a des éclosions qui sont actives. On les a chiffrées cet avant-midi. Il y en a 53 sur le territoire de la ville de Montréal. Elles sont principalement concentrées en milieu scolaire puis en milieu de travail. Mmh. Et lors du point de presse, on a dit qu'on allait apporter une vigilance un peu plus particulière avec les sports d'équipe, les sports de contact, relancer les efforts de dépistage également dans les quartiers les plus problématiques. C'est l'état de situation à Montréal.
Eh boy, t'es pas très...
Tu commences en force, hein?
Tu commences rough un peu. Depuis dimanche, ben là, on le sait, là, il y a trois régions en zone orange. Ça non plus, hein, c'est pas une bonne nouvelle.
Ouais, ben tu sais, je te dirais que ça donnait le ton un peu hier, hein, sur le coup de 17h, quand il y a eu le point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, avec le docteur Horacio Arruda encore, où là, ça a été confirmé. C'était dans l'air depuis le matin, là, tu sais, j'étais en onde dimanche matin, salut, bonjour, puis là... Mmh. C'était déjà dans l'air. Je te dirais même là, que samedi matin, quand je faisais des entrevues avec les experts en santé publique, déjà là, on sentait que le palier orange s'approchait pour certaines régions. Là, effectivement, que Montréal, la capitale nationale et Chaudière-Appalaches sont passés du jaune au orange depuis hier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change? Bon, depuis minuit une, la nuit dernière, en zone orange, les rassemblements privés sont passés de 10 à 6 personnes, ouais. Ou de 2 familles d'adresses qui sont différentes. Les bars aussi, ça fait quand même des gros changements, puis c'est décrié par certains. Mm-hmm. Les bars ferment à minuit. La vente d'alcool, ça s'arrête à 23 heures. Pourquoi on agit comme ça? Ben, c'est qu'ultimement, on s'est aperçu que plus la soirée avançait, ben, plus les inhibitions tombaient aussi, puis plus les gens avaient tendance à se rapprocher, puis à ne pas respecter la distance d'eux-mêmes. Mais ça, c'est la logique même. On comprend que pour plusieurs commerces, par contre, là, c'est un autre coup dur. Il y a des bars qui se sont pas, il y a des bars, des restaurants qui ne se sont pas relevés de la première vague. Ça va faire mal pour plusieurs, effectivement. Maintenant, pour ce qui est des rassemblements publics, c'est limité à 25 personnes. Pour ce qui est de nos sorties, là, tu sais, bon, aller faire l'épicerie ou quoi que ce soit. Pour ce qui est des zones oranges, là, c'est vraiment recommandé qu'une seule personne d'une famille se rende dans un commerce. Mm-hmm. Dans les CHSLD, il y a seulement les visites essentielles et les proches aidants qui sont permises. Dans les résidences privées, on a resserré un petit peu. en disant que les résidents ne pourront pas recevoir plus de 5 personnes à la fois et les déplacements interrégionaux actuellement dans ces zones-là ne sont pas recommandés. As-tu, on a l'impression qu'on a déjà joué dans ce film-là,
il malheureusement. Semble, hein? Ouais, c'est ça.
Ouais, ça rappelle des mauvais souvenirs, mais c'est pas irréversible, là. Je veux dire, là, OK, c'est un warning, là, c'est une claque d'en face pour plusieurs, mais à partir du moment où on se dit, OK, c'est beau, on est en zone orange, ben c'est possible de refaire les efforts.
Mais on le savait, Alexandre, tu sais, la santé publique, le premier ministre nous avertissait, là, il y a relâchement. Là, vous êtes sur le party, puis là, on avait toutes sortes d'images et d'exemples de gens qui respectaient pas les consignes. Ben, c'est ce que ça donne.
Ben, c'est ça le problème. T'sais, toi puis moi, Benoît, on le savait. Il y a une méchante gang à la maison qui le savait aussi. Mais il y a aussi une méchante gang qui l'avait un petit peu oublié, ça. C'est pas ouais. Tous des gens mal intentionnés. Là. Faut pas généraliser. Là. Mm-hmm. Est-ce qu'on a un peu baissé la garde, toi et moi, au cours des derniers mois? Je veux pas parler pour toi, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on s'est-tu lavé les mains 15 secondes au lieu de 20 secondes? Ou, mm-hmm. je caricaturise un peu, quand même. Alors, est-ce que ça va faire un rappel pour les gens quand même mobilisés, qui sont bien intentionnés, qui veulent respecter les règles? Maintenant, pour la deuxième vague, là, il y a tout un flou à savoir, on est-tu en deuxième vague, on n'est pas en deuxième vague.
Mais qu'est-ce qui cause les éclosions, là? T'sais, si c'est les bars, ben fermez les bars pendant 2 semaines. T'sais, si c'est les salles de quilles, fermez les salles de quilles pendant 2 semaines.
Si on sait, là, privés, Benoît.
Ben, fermez les maisons. on emprisonne tout le monde, c'est tout. Pendant 2 semaines. Non, mais si c'est les maisons privées, là, ben envoyez les policiers faire des rondes, puis qu'on prenne ça au sérieux, puis qu'on le dise, arrêtez d'inviter la famille, les amis pendant 2 semaines.
Mais c'est juste en réduisant de 10 à 6, là, on s'entend aussi que ça réduit là, les possibilités de faire des gros parties. Mais tu sais, je parlais pour mon balado à Cube là en fin de semaine avec la porte-parole du DPCP. Là. On s'entend que c'est pas mal moins compliqué. En fin de semaine, il y a eu l'opération Oscar, là, où les policiers ont fait le tour des bars. C'est pas mal moins compliqué au niveau de la loi d'intervenir dans un lieu public, d'intervenir dans un bar, que d'intervenir dans une maison privée. Là. Mais là, la violation du domaine privé, c'est pas simple. Là.
Mais Alex, de 10 à 6, là, moi, chez nous, là, j'ai 4 enfants. Quand mes 2 plus vieux viennent souper à la maison, on vient d'atteindre le quota. On est 6.
Je comprends. Mais là, c'est la règle, par exemple, des 2 familles là, qui peuvent s'appliquer à ce moment-là. Tu comprends que si, à un moment donné, je sais pas, moi, vous êtes une famille de 6.
Mais mes plus vieux habitent.
Si j'arrive avec une famille de 4, ben, ils vont pas nous arrêter. On est 2 familles.
Là. Ben, apporte le lunch au moins, là.
Tu sais, je ferai pas mon cheap. Tu sais, ben, pour les fois que tu m'invites, je ferai pas mon cheap.
Ah bon, il y a une grève générale illimitée en service de garde en milieu familial subventionnée ce matin.
C'est un drôle de timing, hein?
C'est pas
un timing qui va être très populaire auprès des parents. Ça touche quand même là, au-delà de 50 000 familles actuellement. On s'entend fin de semaine qu'il y avait peut-être espoir. Tu sais, hier, il devait y avoir un point de presse là, de la part de ces travailleuses et travailleurs des services de garde en milieu familial subventionnés. C'était prévu pour 10 heures. Ça a été annulé. On justifiait ça pour dire, ben, il y a des avancées à la table de négociation, on va donner un dernier petit coup. Là, on se disait, ah, ben, peut-être que tant mieux, ça pourrait se régler pour les parents. C'est pas ça, malheureusement, qui est arrivé. Donc, 10 000 responsables qui ont décidé de débrayer pour faire pression sur le gouvernement, pour faire avancer les négociations. La Fédération des intervenantes en petite enfance avait proposé au gouvernement une offre de la dernière chance hier, souhaitait qu'un arbitre intervienne pour trancher sur la question salariale, mais le gouvernement a choisi plutôt de nommer un médiateur plutôt qu'un arbitre. Ça fait pas l'affaire des grévistes. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est assez simple, c'est que la décision d'un arbitre est exécutoire, contrairement à celle d'un médiateur. Mm-hmm. Maintenant, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu est salarial. Du côté des travailleuses et des travailleurs en service de garde en milieu familial, eux disent gagner 12,42 de l'heure. Le salaire minimum, c'est 13,10. Donc, l'argument qu'ils mettent de l'avant, c'est qu'on est moins payé que le salaire minimum. Là, le gouvernement dit attention, vous avez des crédits. Alors, le chiffre, c'est-tu vraiment 12,42.
Ben oui.
Les deux camps s'entendent pas du tout. Le syndicat demande 16,75. Le gouvernement dit que c'est déraisonnable comme augmentation. C'est au-delà de 30%. Ça fait pas de sens. Le ministre Lacombe aussi qui a publié quand même au cours des dernières heures, il déplorait le fait d'avoir été insulté, là, entre autres, sur les réseaux sociaux. Des insultes sur les réseaux sociaux, Benoît, ça arrive à peine par les temps qui courent. c'était une insulte qui faisait référence à la conjointe du ministre Lacombe. Ça n'a pas passé.
Ah oui, hein. C'est bon, ça insulter le ministre quand t'es en négociation. Super tactique. Excellente stratégie. C'est les prix Nobel. Bon, cette lettre empoisonnée à Donald Trump, ça vient de la rive sud?
Ben, en tout cas, il y a une opération d'envergure qui se déroule présentement. Ça se passe à Saint-Hubert. C'est mené par la GRC. Ils sont accompagnés aussi par les policiers, les pompiers de Longueuil. C'est une équipe vraiment spécialisée en intervention en cas d'incident chimique, biologique, radiologique même. En tout cas, bref, c'est une équipe vraiment très, très, très spécialisée. On sait que, si on refait un peu le fil des événements, il y a une femme soupçonnée d'avoir envoyé une lettre contenant de la ricine destinée à Trump. La ricine, là, c'est le poison le plus violent du règne végétal. C'est 6000 fois plus puissant que le cyanure, puis il n'y a pas d'antidote pour ça. Donc, cette femme-là, elle a été arrêtée au moment où elle tentait d'entrer aux États-Unis par voie terrestre en provenance de l'Ontario. Selon ce que disent certains médias américains, c'est le cas de Buffalo News, elle était appréhendée à un poste là, qui relie Fort Erie en Ontario jusqu'à Buffalo. Là, reste à voir les accusations qui vont être déposées contre elle de ce côté-là. Mais la question qui est en suspens, c'est que là, pourquoi on est à Saint-Hubert? C'est un immeuble à condo qui est visé par les policiers. C'est-tu parce qu'elle habitait là? C'est-tu parce qu'elle a transité par là? Ça reste à voir. Mais une chose est sûre, quand on regardait la fameuse lettre, puis c'est le réseau CNN là, qui a partagé les images de la lettre en question, ben on voyait en haut à droite une partie du code postal. Ce qui était écrit, c'est H4T. C'est où ça? Ben c'est le secteur de Saint-Laurent, dans l'ouest de l'île de Montréal, où se trouve entre autres un centre de tri de Poste Canada. Alors l'enquête progresse, on en apprend de jour en jour sur cette histoire-là. Mais bref, la femme a été arrêtée. Puis là, il y a une grosse, grosse opération à Saint-Hubert en ce moment, là, au moment où je te parle.
Moi, je suis étonné de la stratégie, encore une fois, là. Tu envoies du poison par la poste. C'est comme si Poste Canada allait livrer promptement ton envoi.
Ouais.
J'espère qu'elle a mis assez de timbres. J'imagine qu'elle s'est fait pogner à cause de ça. Elle n'a pas affranchi comme du monde.
Heureusement que, bon, justement, dans tous les services secrets américains, il y a différentes barrières de sécurité qui peuvent empêcher. T'sais, je veux dire, des colis suspects comme ça, ils doivent en recevoir un puis un autre. Mais là, écoute, c'est le poison utilisé, de la ricine. Hey, c'est vraiment assez incroyable. Ouais. Vraiment toute une histoire là, qui est en développement.
Puis tu trouves pas ça dans la pharmacie au coin de chez vous?
Non, pas vraiment.
Non, c'est ça.
Alors, faut vraiment, ça, c'est des grosses, grosses questions en suspens. Veux-tu même me dire qu'est-ce qu'elle faisait avec ça?
Exactement. On se laisse là-dessus, Alexandre Dubé.
OK.
Merci. À demain.
À demain. Salut, Benoît.